Bonjour Emmanuel, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Les nouveaux chemins s'interrogent tous les jours sur la ténébreuse affaire Calas, en compagnie d'Antoine Ravon, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Colomba Grossi et Tristan Grenassia. À la réalisation d'enquêtes minutieuses cette semaine, l'inspecteur Nicolas Berger, à la lecture de plaidoiries voltairiennes Jean-Louis Jacopin, avec aujourd'hui à la prise de son un justicier, Stéphane Touvenin. À 10h51, ce sera l'heure, comme tous les jours, de retrouver Géraldine Mosna-Savoie pour ses 2 minutes papillon. Géraldine qui vous donnera envie de lire aujourd'hui le 4e volume de la correspondance de Nietzsche, de janvier 1880 à décembre 1884, qui paraît aujourd'hui même chez Gallimard. L'esprit de Voltaire, 4e et dernier temps. Après le traité sur la tolérance, lundi, le dictionnaire philosophique et la question du sexe et du genre, à partir notamment de la correspondance avec les grandes intellectuelles féminines et féministes de son temps, mardi et hier, mercredi. Pour terminer cette semaine consacrée à François-Marie Arouet, dit Voltaire, mais ce n'est pas de sa faute, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro des Nouveaux Chemins l'ancien garde des Sceaux et professeur émérite à l'Université Paris 1 Sorbonne, Robert Badinter, qui va vous raconter en détail la ténébreuse affaire Calas, à l'issue de laquelle Voltaire rédigea le traité sur la tolérance et qui suscita un scandale judiciaire sans précédent qui conduira ensuite au triomphe des principes énoncés par Beccaria dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 25 ans plus tard. Bonjour à vous, Robert Badinter.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'était votre choix de parler de l'affaire Calas en particulier pour terminer cette semaine. Un petit rappel des faits. Nous sommes le 13 octobre 1761 et Jean Calas, négociant à Toulouse, retrouve son fils Marc-Antoine pendu au premier étage de sa propre maison. Écoutons.
Il y a quelqu'un ici qui est mort de mort violente?
Oui, monseigneur. Mon fils, Marc-Antoine.
Quand avez-vous trouvé le corps?
Il y a moins d'une heure. Notre invité, monsieur Lavesse, et mon fils Pierre l'ont trouvé là, comme vous le voyez.
Monnier, notez ce que dit monsieur.
Monsieur...
Calas, monseigneur. Jean Calas. Je suis marchand drapier.
Monnier, notez que son cou est marqué et que sa cravate est dénouée. Il s'est pendu. Mais il a pu également être étranglé avec une corde. C'est très possible aussi. J'aurais besoin de l'examiner plus avant. Faites-le et donnez-moi vos conclusions demain. Je vous verrai ensuite, car de toute évidence, votre fils est mort de mort violente. Des rôdeurs, peut-être. En attendant, bonne nuit, si vous le pouvez.
Ils vont tout de même pas s'en tirer comme ça.
La vérité, la voilà par notre Seigneur. Il n'y a pas de bonne justice pour eux.
Pour eux? Qu'est-ce qu'on veut dire?
On veut dire qu'ils se permettent tout.
Ils qui? Ils?
Les protestants. C'est bien connu. Ils tuent leurs enfants qui veulent retourner à la vraie croyance.
Qui retournent? Qu'est-ce à dire? Vous êtes de la religion prétendue réformée?
Oui, monseigneur.
Pourquoi me l'avoir caché?
Mais monseigneur, vous ne me l'avez pas demandé.
Vous auriez dû le déclarer spontanément. Ce ne sont pas des choses que l'on dissimule. Surtout dans ces circonstances. Vous êtes tous en état d'arrestation.
Quoi? Monseigneur, ce n'est pas le droit.
On vient voir. On a raison de se méfier.
Emmenez-les.
Robert Badinter, Marc-Antoine Calas s'est-il suicidé ou bien a-t-il été assassiné?
Il demeure toujours une interrogation à ce sujet, même si pour Voltaire et ensuite pour la postérité, il semble ne pas en avoir. Celui qui regarde avec l'œil critique les données, les seules que nous ayons à disposition, les données matérielles, les indices, demeure perplexe. Je l'avoue, on voit très bien Maigret se penchant sur l'affaire Calas. Qu'est-ce que nous savons qui est absolument indiscutable? Nous savons que Calas père, le négociant, Jean Calas, qui est établi à Toulouse, qui est protestant, ne l'oublions pas, ce soir-là, Nous sommes le 13 octobre 1761. Soupe avec sa famille, pas toute, mais une partie de sa famille, c'est-à-dire sa femme, son fils aîné Marc-Antoine, ensuite un autre fils Pierre et un ami de passage, qui est le fils d'un avocat célèbre, de Bordeaux, Monsieur Laveisse, et qui est venu pour d'autres raisons, qui n'a pas trouvé de cheval pour rentrer et qui, par conséquent, ne peut pas aller coucher là où il aurait dû, la campagne. Donc, on dîne, détail, on sait qu'ils ont mangé des raisins. On retrouvera d'ailleurs des pépins de raisins dans l'estomac de Marc-Antoine, ce qui prouve qu'il a, lui, été jusqu'au dessert. Et puis, au dessert, son miata verdineux, Marc-Antoine s'en va, c'est un jeune homme de 23 ans, bien de sa personne, il a l'habitude d'aller dans un cabaret voisin, une auberge où on joue, qui s'appelle les Quatre Billards. Il s'en va. Bon, personne n'y prête attention, on continue à parler, à bavarder, la soirée se poursuit, s'achève, et celui qui reste, Fiscalas, décide de raccompagner son hôte, prend une torche, puisque c'est le mode d'époque, et au moment où ils descendent, quelques instants s'écoulent, et d'un seul coup, on entend des cris poussés par le fils Calas, appelant son père, les parents. Le père descend, la servante retient la mère, et il voit son fils pendu. C'est sa déclaration, et c'est aussi celle des deux témoins. Trouver le corps pendu où ? Entre les deux battants de la porte qui mène de la boutique à la réserve, pendu. Alors, on comprend l'émotion du père de Jean Calas, sa mère descendre, la servante la retient. Enfin, chacun mesure l'intensité du drame. Calas, descendant, finalement, le dépend, l'allonge sur le sol, et on constate qu'il est mort. S'en vont l'ami de passage pour rechercher un chirurgien avec le fils. L'aide chirurgien revient, constate le décès. À ce moment-là, on décide qu'il faut aller prévenir aussitôt les autorités, c'est-à-dire ici la municipalité, les capitouls qui sont adjoints au maire. La foule s'assemble, ce qui est très important. Nous sommes dans un climat, il faut le marquer, d'obsession de haine envers les protestants. Toulouse est une ville qui, à cette époque, pour des raisons historiques et immédiates, historiques parce que ça a toujours été une ville catholique contre un environnement pour une partie importante protestants, parce qu'on se prépare à célébrer le 200e anniversaire d'une grande bataille entre catholiques et protestants, victoire des catholiques. Vous savez que après la révocation de l'édit de Nantes, en 1725, le roi reprendra une ordonnance encore plus sévère. Les protestants sont des sans-droit. Ils n'ont même pas droit à l'état civil. Leurs mariages ne sont pas reconnus, leurs enfants sont des bâtards, la question de l'héritage se pose de façon cruelle et nombre important de professions leur sont interdites. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, de plus important, c'est que cette haine des catholiques envers les protestants n'a jamais cessé. Elle est toujours, toujours très vivace au moment où commence l'affaire Calas. Il vient d'y avoir une affaire qui va se dérouler parallèlement, l'affaire du pasteur Rivette. Mmh. Le pasteur Rivette, célébrant l'office au désert, est passible de la peine de mort. Trois jeunes gens décident d'essayer de le délivrer, sont arrêtés. On se prépare à ce moment-là au procès réel. Donc, le capitoul, puisque ainsi s'appellent les officiers municipaux, revient avec la force publique, il trouve un attroupement, qu'est-ce que c'est, etc. On a trouvé mort le fils Calas, et tout de suite, c'est la rumeur qui commence. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il allait se convertir au catholicisme. Et par conséquent, eh bien, le Calas fanatique, comme tant d'autres, pour ne pas dire tous les protestants, a préféré tuer son fils. Folie ! Surdité monstrueuse.
C'est ça, c'est qu'on désigne d'emblée le père comme coupable. Le père
Les Calas, par définition, le père d'abord. C'est lui, parce qu'il ne voulait pas que son fils se convertisse à la religion catholique. Et on dit tout de suite, d'ailleurs, il avait fréquenté les églises ces derniers temps. D'ailleurs, il était
mais alors qu'il avait déjà un fils qui s'était converti au catholicisme.
Qui s'était
Louis,
converti.
Qui est déjà catholique et qui n'a pas été tué.
Et qui non seulement n'a pas été tué, mais a été pensionné, qu'il a continué à entretenir. Il n'est pas content. Mais les faits sont là. La foule, pour elle, il y a déjà plus que la rumeur, une conviction. On voit très bien la petite rue, là, autour de la boutique. Nous sommes en octobre, il fait beau encore à Toulouse. C'est la soirée. Bon, le capitoul arrive, écarte tout le monde. Et là, il fait très très mal son office d'officier de police judiciaire. Alors très très mal, en ce sens que les indices premiers, au lieu de les collationner, de les conserver, ça ne va pas être fait. Immédiatement, on constate quoi ? Le corps est allongé, Marc-Antoine est sans vie, il y a un gros sillon autour de son cou qui indique qu'il est mort par strangulation, pendaison, lui-même ou les autres l'auraient-il pendu ? S'est-il pendu ? L'a-t-on pendu ? L'a-t-on étranglé ? En tout cas, il est mort indiscutablement de cet étranglement. Alors, entre les deux hypothèses, le suicide de Marc-Antoine ou le meurtre par le père et peut-être aidé par la famille du fils aîné, on ne balance pas. Mais quand on regarde de très près les éléments matériels, on est frappé d'une sorte d'incertitude. Pourquoi ? Parce que nous prenons l'hypothèse qui paraît la plus vraisemblable du suicide. J'ai été très longtemps avocat, j'ai eu l'occasion de plaider des grandes causes criminelles et quand j'enseignais, je rappelais toujours aux étudiants que le procès-verbal le plus important, c'est le premier. C'est qu'est-ce que l'on constate sur les lieux du crime et à partir de quoi a commencé l'enquête policière, car c'est souvent dans les dizaines de feuillets initiaux que vous trouvez la clé de ce qui suivra. Voilà. Donc là, inévitablement, on se penche sur les constatations. Et qu'est-ce qu'on constate ? Se pendre, bien. À quoi ? Il s'est pendu, ou il se serait pendu, à un bio, c'est-à-dire une barre de bois, posée entre les deux battants de la porte. C'est pas stable. Quand on se pend, si on n'a pas les mains liées, inévitablement, il y a gesticulation du corps. Le corps bouge. Et ça n'est pas stable, une barre entre deux battants de bois. J'ajoute que Calas, Marc-Antoine, le fils, est un jeune homme de 23 ans, à la force de l'âge, connu comme étant très vigoureux, et qu'il mesure 1,72 m. La corde qui a été retrouvée sur les lieux, et dont on sait, alors elle, avec certitude, qu'en effet, elle a été un des instruments de la mort, puisqu'il y a un cheveu de Calas qui est collé à cette corde. La corde mesure 48 cm. Et la hauteur de la porte, c'est 2,25 m. 1,72 m, 48 cm, 2,25 m le chambranle. Essayez de vous pendre en accrochant la corde préalablement à une bille de bois que vous allez poser en équilibre sur deux battants de porte. On reste pensif, ça n'est pas impossible, mais on se dit, c'est pour se suicider une entreprise étrange. Et puis, il demeure un élément, ou plutôt une absence d'éléments qui ne cesse pas de préoccuper. Pour se pendre, il faut nécessairement que vous montiez sur quelque chose. Or, il n'y a trace nulle part, ni d'un escabeau, ni d'un gros bio de bois, ni d'une chaise, nulle part. C'est là où je dis, le procès-verbal de perquisition qui aurait dû être minutieusement fait, complètement défaut. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on s'interroge, mais alors, est-ce que ça ne serait pas ? Alors, c'est l'hypothèse du capitoul, donc il a été pendu. En faveur de la pendaison suicide, vous avez un détail très important. L'habit. Il a un habit et une veste, comme on les porte au XVIIIe siècle, chemise, veste de Marc-Antoine, il l'a enlevé. Et il est soigneusement plié sur un comptoir. Si vous enlevez votre habit et que vous le pliez, c'est pour vous suicider, ça va dans la thèse du suicide. Si on dit qu'il a été suicidé entre guillemets, c'est-à-dire tué par son père, aidé de son frère et peut-être de cet ami, à ce moment-là, nécessairement, il y a trace de Rix. On ne peut pas ainsi disposer d'un jeune homme athlétique sans qu'il y ait vêtements déchirés. Il est parfaitement coiffé. Il ne porte la trace d'aucune violence, d'aucune contusion. Alors là, on retourne tout de suite à la thèse du suicide. Et j'ajoute que si on avait prémédité, on aurait prévu de disposer du cadavre. Le cadavre a ici une importance particulière parce que la loi à l'époque interdit le suicide et que le suicidé est non seulement l'auteur d'un grave péché vis-à-vis de la foi catholique ou protestante, mais en plus, dans la loi de l'époque, le suicidé est exposé, son cadavre est traîné, c'est considéré comme délit à l'égard de la personne du roi. Voilà. Donc, la porte est fermée. Donc, ça s'est passé à l'intérieur de la maison. Et l'interrogation est là, mais vous avez dû creuser un fossé, dit le capitaine. Non, non, du tout. On ne trouvera jamais de fossé. Il n'y a que le corps. Rien n'a été préparé. Donc, tout ensemble, vous regardez et vous dites, thèse du suicide. Donc, tout de suite, on voit le préjugé, pré-jugement, c'est ici, eh bien, Calas a tué son fils parce que son fils lui avait dit qu'il allait épouser la religion catholique, mobile de cette conversion, moins la foi que l'intérêt. Quel intérêt ? Calas fils voulait être avocat et la loi interdisait que des protestants puissent exercer cette fonction.
C'est là où on voit que s'imbrique dans cette affaire mystérieuse, hein, vous insistez bien sur cette dimension non résolue de l'affaire, la dimension religieuse, la haine à l'égard des protestants, le conflit extrêmement délétère qui a lieu à cette époque-là entre catholiques et protestants. Et de l'autre côté, sont révélées les défaillances d'un système judiciaire, qui est quand même particulier à l'époque, vous allez y revenir j'imagine. Mais l'affaire révèle finalement tant la haine sociale et religieuse que l'incapacité de la justice qui règne à ce moment-là de suivre un protocole qui permettrait peut-être de jeter la lumière sur ce cas. Et c'est cela que Voltaire va pointer.
C'est cela que Voltaire mettra en cause, à juste titre. Pour d'autres affaires, ça avait déjà été fait. Mais là, c'est particulièrement saisissant parce que c'est un officier municipal, le Capitoul. C'est un homme qui répond aux vœux de ses administrés, qu'on est dans un climat de particulièrement vif de haine contre les protestants, qu'il y a parallèlement l'affaire Rivette, il y aura une autre affaire, l'affaire Servette, on ne va pas toutes les prendre, mais l'affaire Rivette qui se déroule. Bref, la haine anti-protestante à ce moment-là est à son comble. C'est pourquoi d'ailleurs Voltaire s'en emparera. Parce que c'est le climat de haine et d'intolérance qui compte. Mais en ce qui concerne l'enquête, non seulement elle va être menée à charge, mais les plus élémentaires exigences de l'ordonnance royale qui régissait les enterrements criminel va être bafoué, méconnu. C'est véritablement une sorte de chasse à l'homme. On le tient, on ne veut plus le lâcher et on le conduira jusqu'au supplice.
Quel était donc l'état de cette étonnante aventure, lorsqu'elle a fait naître à des personnes impartiales mais sensibles le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la tolérance, sur l'indulgence, sur la commisération, que l'abbé Hauteville appelle dogme monstrueux dans sa déclamation ampoulée et erronée sur des faits et que la raison appelle l'apanage de la nature. Où les juges de Toulouse, entraînés par le fanatisme de la populace, ont fait rouer un père de famille innocent, ce qui est sans exemple, où ce père de famille et sa femme ont étranglé leur fils aîné, aidé dans ce parricide par un autre fils et par un ami, ce qui n'est pas dans la nature. Dans l'un ou dans l'autre cas, l'abus de la religion la plus sainte a produit un grand crime. Il est donc de l'intérêt du genre humain d'examiner si la religion doit être charitable ou barbare. Thank you. Robert Badinter, le génie de Voltaire dans cette histoire, est de mettre en œuvre ce qu'on pourrait appeler une méthode, une politique de la contestation pour faire plier le pouvoir absolutiste et pour mettre cette soi-disant justice devant ses propres contradictions. C'est-à-dire qu'au sein du traité sur la tolérance, je viens de lire un extrait du premier chapitre, Voltaire va pointer, insister sur la dimension religieuse, et en philosophe, il va établir ce traité pour pointer les travers du fanatisme. Mais son talent est bien là, c'est-à-dire de s'attacher à montrer que la singularité d'une injustice est grosse d'un scandale politique. La religion ici est quasiment un prétexte pour dénoncer ce scandale proprement juridique et dénoncer donc le scandale qui lui a une dimension complètement politique.
Je vais être tout à fait direct. Hommage rendu, évidemment, au génie de Voltaire et à l'énergie avec laquelle il a conduit l'instance en révision. On lui doit tout dans cette affaire. Mais cet hommage rendu, je le dis très simplement, c'est un crime judiciaire. Il faut dire les choses par leur nom. On a assassiné Calas. Je ne parle pas déjà de la législation de l'époque. La présomption d'innocence, ça n'existait pas, l'assistance de l'avocat.
On a assassiné Calas père, vous voulez dire, Jean Calas.
Oui,
c'est ça.
On a assassiné la justice et dit un crime judiciaire.
Voilà.
Le crime judiciaire, c'est la justice tue Calas. Et elle le tue alors que rien ne permet de le faire. Voyons les choses, comment ça va se dérouler? On l'emmène. On le place évidemment en prison. Là, en prison, on va procéder pendant qu'il y est à ce que l'on appelle des monitoires. On va, tous les dimanches, un certain nombre de dimanches de suite, au moment du prêche, lire des questions qui auront été rédigées par l'accusation pour demander qu'on vienne témoigner sous peine d'excommunication par l'Église, nous sommes, ne l'oublions pas, au prêche de l'Église, sur tel ou tel fait. Et évidemment, les questions posées sont toutes orientées. C'est est-ce que, on l'a vu, le fils Calas à l'Église, est-ce qu'on sait s'il n'avait pas...
C'est une délation, en fait. C'est
mais
ça,
c'est un appel à délation.
C'est une entorse à la loi.
On donne les indications. C'est une pratique qui, en elle-même, est monstrueuse, puisque l'Église se prête. N'oubliez pas, l'excommunication. Donc si vous êtes bon chrétien, courez voir les officiers municipaux, les officiers de police, et dénoncez le fils Calas comme voulant se convertir. Ce qui demeure le seul mobile possible du crime. À la condition qu'on considère qu'un péruguenot, une mère huguenote, comme le dit Voltaire, un péruguenot, une mère huguenote, un frère, s'associent pour tuer leur frère parce que il va passer à la religion catholique et devenir ce qu'on appelait un nouveau réformé. Et là, Voltaire a raison. Ça révolte même la nature. Calas, c'est un négociant. Madame Calas, 6 enfants, on sait que c'était une très bonne mère. Le frère, c'est son frère qu'on lui demande de tuer. Quand à ce garçon qui est de passage, on ne voit pas très bien pourquoi ce fils d'un avocat de Bordeaux irait se précipiter pour prêter main forte à un crime de ça. Donc, tout est fou si on ne prend pas en compte ce qui est l'obsession de Toulouse à ce moment-là, et spécialement du Capitoul, et ensuite des juges. Nous sommes en présence d'un crime fait par un père protestant avec l'aide de sa famille contre celui de ses enfants qui allait à ce moment-là se convertir après un autre qu'il avait déjà fait. Tout démentait cette construction. Donc il fallait quoi ? Prouver d'abord que Marc-Antoine voulait se convertir. D'où l'appel, vous l'avez vu à la messe, vous l'avez vu attendant pour procéder à une confession, etc. Mais le procédé en lui-même, c'est un appel à délation publique sous menace d'excommunication. Et pour ceux qui sont croyants, on imagine ce que cela signifie. Voilà comment fonctionne la justice. On comprend que ça bouleverse Voltaire au moment des Lumières, en 1761, à Toulouse, grande ville de Parlement.
Mais alors comment ça va se passer précisément? Comment est-ce que ce qui n'est qu'un fait divers...
On aura des dizaines de témoins. On
oui,
a toujours...
Mais comment est-ce que ce scandale, qui n'est sans doute pas unique Je veux dire, à l'époque, ces dysfonctionnements-là que vous pointez sont sans doute récurrents, ce n'est pas un cas particulier, ça n'aurait pu être qu'un fait divers. Or, ça a pris une telle ampleur sur la scène intellectuelle, notamment grâce à Voltaire, que ça a eu des conséquences palpables et tangibles au sein de la scène judiciaire. Comment cet événement a-t-il atteint une telle portée ?
Mais parce que, comme je l'ai dit, c'est un crime de la justice, qui va se dérouler. Ça ne se résume pas à cette période de l'instruction. Les choses iront vite. Je rappelle, il n'y a pas d'avocat. Il ne peut pas être assisté quand il est sur la sellette, lui ou les autres qu'on a arrêtés, par un avocat. Il est seul en présence de ses juges. Il est seul en présence de ceux qui l'interrogent. Et je rappelle que dans cette affaire terrible, le premier arrêt, première décision rendue par justement la justice de première instance, celle rendue par les Capitouls, avec trois assesseurs en plus, ils seront sept au total, ça sera, puisqu'on n'a pas d'autres éléments suffisants, après l'enquête, etc., on n'a pas d'éléments suffisants, on n'a pas d'aveu, on va le passer à la question ordinaire et extraordinaire.
C'est-à-dire qu'on part du principe que s'il avait été coupable, alors avec ce questionnement ultime, il allait avouer sa culpabilité. Or, c'est pas ce qui se passe.
Ce que l'on veut, c'est arracher les aveux.
Voilà.
Précisément parce que finalement, le dossier, dirait-on aujourd'hui, le dossier de l'affaire Callas, en ce qui concerne le crime lui-même, je laisse l'interrogation qui subsiste sur l'absence de chef, je dis, en ce qui concerne le crime, ce qu'ils veulent les juges, c'est qu'il avoue. C'est qu'un membre d'une famille protestante vienne dire... Eh bien oui, j'ai tué mon fils. J'ai tué mon fils parce que je ne pouvais pas supporter qu'il se convertisse. Alors je l'ai tué avec l'aide de ma femme, avec l'aide de mon fils, l'autre, avec l'aide de celui qui était de passage. Je l'ai tué. Voilà. Et ça, c'est, dit-on, la religion réformée. Donc on voit bien le fond de haine religieuse qu'il y a derrière ça. Vous êtes dans ce climat. Il ne faut jamais oublier les climats dans les affaires judiciaires. Alors, je poursuis en disant, appel sera fait. Le Parlement de Toulouse, il est composé de très hauts magistrats. C'est la fine fleur de l'élite judiciaire du temps. C'est le deuxième Parlement en France, immédiatement après celui de Paris, par l'importance de son ressort et aussi par la qualité éminente de ses membres. Eh bien, qu'est-ce que va faire le Parlement de Toulouse ? Il va procéder à un complément d'enquête, lui aussi. On va aussi, à ce moment-là, décider que on va soumettre Callas à la question ordinaire et extraordinaire et on le condamne à mort après la question.
On peut trouver aujourd'hui à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, où Antoine Ravon, qui a préparé cette émission, s'est rendu, le procès-verbal de l'exécution de Jean Callas. Je vous le lis, ça relate la fin du condamné avec une espèce de sécheresse administrative qui était sans doute de rigueur à l'époque. On y lit ceci. Jean Callas a été conduit à la place Saint-Georges, lieu destiné pour l'exécution. Nous l'avons fait descendre du chariot et asseoir au bas de l'échelle dressée à l'échafaud et l'avons interpellé de nous déclarer s'il persiste ou s'il a quelque chose à déclarer à la justice pour décharger sa conscience. Lequel Callas a répondu qu'il persiste dans ses précédentes questions et qu'il mourrait innocent. Lui avons présenté que, quoique innocent, il pouvait du moins savoir les auteurs du meurtre commis sur la personne de Marc-Antoine Callas. Répond qu'il n'en connaît point. Et de suite, l'exécuteur l'ayant monté sur ledit échafaud, et après qu'il l'a eu couché et attaché sur la forme de croix, ledit Callas a été rompu vif, et l'exécuteur l'a exposé sur la rue qui était dressée à côté de l'échafaud, la face tournée vers le ciel, où ledit Callas resta en vie pendant 2 heures précises, et ensuite, de notre ordre et en conformité du rétintum, ledit Callas a été étranglé jusqu'à ce que mort naturelle s'ensuive, et son corps mort a été jeté dans le brasier ardent.
Oui, vous venez de lire le procès-verbal du supplice. Mais avant cela, le matin... Il y a eu une séance de torture ordinaire et extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a torturé Callas pour qu'il avoue. Il n'a pas avoué. À l'ordinaire, ça veut dire qu'on étire le corps qui est disloqué par l'effet de cordes qui tiennent ses bras en arrière, de cordes qui tiennent ses jambes. Il est allongé et on étire de plus en plus de façon à lui briser les ligaments. Ce sont des douleurs épouvantables. Il n'avoue pas, il ne dit rien. Après ça, on passe à l'acte suivant, la question dite extraordinaire, qui est à Toulouse par l'eau. Pince le nez et on enfourne des litres et des litres d'eau.
12 litres en l'occurrence, oui.
Oui. 12 litres successivement. Il n'avoue toujours pas. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à l'exécuter. Et c'est ce procès verbal que vous indiquez. Mais préalablement à ce supplice-là, il y avait déjà eu tous les supplices antérieurs.
Oui, ce n'est que la fin des supplices.
Quand je vous disais, le crime judiciaire, il est là. Il est là. N'est-ce pas ? Les juges ont délibéré, ils ont délibéré non seulement sur la question de culpabilité, bien légèrement, mais ils aussi prennent le soin de détailler les formes de supplice auxquelles il sera soumis.
Tout en disant qu'il est mort de mort naturelle, c'est ça qui est assez amusant. C'est qu'à la suite des tortures, effectivement, il finit par mourir et le procès-verbal dit bien qu'il a été étranglé jusqu'à ce que mort naturelle s'en suive.
Oui, ça veut dire par là qu'on ne l'a pas brûlé vif.
Voilà.
Voilà. Mais c'est de l'écriture de la main du premier président du Parlement de Toulouse, chambre criminelle, la chambre des Tournelles, qu'il y a l'indication, restera 2 heures exposé et sera étranglé ensuite, ce qui était une faveur, considérait-on, car c'est avant d'être étranglé que le texte prévoyait qu'il serait jeté vivant dans le feu. Donc là, on l'étrangle avant de le brûler. Mais après ces séances successives de torture, celle du matin et l'horrible supplice de la roue, on casse les membres, les uns après les autres. Et pour finir, on casse les reins. Et c'est dans cet état qu'on laisse le condamné exploser. Jusqu'à ce que mort s'en suive, ici, jusqu'à l'étranglement, pour précisément fixer un terme au supplice. Mais nous sommes dans l'abomination. N'importe quel être humain, imaginant cette scène, ne peut qu'être révolté. C'est ça l'infamie de la justice de l'Ancien Régime. Et c'est contre ça que Voltaire, mais d'autres encore, s'élève à l'époque. Et ce qui en sera la conséquence, c'est que au moment où, après le triomphe à Beccaria dans toute l'Europe des Lumières, particulièrement à Voltaire et aux siens, mais disons-le, Beccaria, on dit à juste titre, c'est lui le premier à avoir prôné l'abolition de la peine de mort, mais je rappelle que c'est d'abord un cri, un manifeste contre la torture.
Alors écoutons-le, justement, Cesare Beccaria, un extrait des Délits et des peines qui paraît en 1764. Donc on est absolument contemporain de l'affaire qui nous occupe. Un extrait donc de ce texte qui est fondateur dans l'histoire de l'abolition de la peine de mort. C'est le premier, Beccaria quand même, à s'opposer à la peine de mort comme principe. Écoutons ses arguments.
N'est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l'expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l'homicide, ordonnent un meurtre public pour détourner les citoyens de l'assassinat? Quel est le sentiment général sur la peine de mort? Il est tracé en caractère ineffaçable dans ces mouvements d'indignation et de mépris que nous inspire la seule vue du bourreau, qui n'est pourtant que l'exécuteur innocent de la volonté publique, qu'un citoyen honnête qui contribue au bien général et qui défend la sûreté de l'État au-dedans comme le soldat la défend au-dehors. Quelle est donc l'origine de cette contradiction? Et pourquoi ce sentiment d'horreur résiste-t-il à tous les efforts de la raison? C'est que, dans une partie reculée de notre âme, où les principes naturels ne sont point encore altérés, nous retrouvons un sentiment qui nous crie qu'un homme n'a aucun droit légitime sur la vie d'un autre homme et que la nécessité qui étend partout son sceptre de fer peut seule disposer de notre existence. Que doit-on penser en voyant le sage magistrat et les ministres sacrés de la justice faire traîner un coupable à la mort en cérémonie, avec tranquillité, avec indifférence? Et Tandis que le malheureux attend le coup fatal dans les convulsions et les angoisses, le juge qui vient de le condamner quitte froidement son tribunal pour aller goûter en paix les douceurs et les plaisirs de la vie et peut-être s'applaudir avec une complaisance secrète de l'autorité qu'il vient d'exercer.
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir. Ni les fleurs soupirer des prés l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir.
Vous écoutez France Culture, Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, Le Condamné à mort de Jean Genet, qui suit la lecture d'un texte de Césarie Beccaria, Des délits et des peines, sur l'abolition de la peine de mort, pour le quatrième temps de notre série d'émissions consacrée à Voltaire. J'ai le grand plaisir de recevoir l'ancien garde des Sceaux, professeur émérite à l'Université Paris 1 Sorbonne, Robert Badinter, qui vient analyser pour vous l'affaire Calas, rendue célèbre notamment par l'intervention de Voltaire en son temps.
De nous parler d'amour, nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent. Assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche, amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends, marche léger. Vole dans l'escalier plus souple qu'un berger.
À l'écoute de ce texte, Robert Badinter, et de cet argument imparable de Beccaria, n'est-il pas absurde que les lois, qui ne sont que l'expression de la volonté générale, qui détestent et punissent l'homicide, ordonnent un meurtre public pour détourner les citoyens de l'assassinat ? On ne peut qu'être perplexe et surpris de voir qu'il a fallu attendre aussi longtemps pour obtenir effectivement l'abolition de la peine de mort en France.
Oui, mais vous remarquerez que dans l'affaire Calas, ce qui est en jeu, c'est pas le principe de la peine de mort. Il faut pas oublier, on vient de détailler les supplices auxquels on a livré Calas. Et les tirements, et le haut, et la roue. Jamais il n'a avoué. Et Calas, c'est pas un professionnel du crime, c'est pas Cartouche, c'est pas un jeune athlète, là, de 25 ans. C'est un homme qui a passé la soixantaine, et nous sommes au XVIIIe siècle. C'est un homme fragile, on le dépeint comme tel, à la constitution évidemment peu vigoureuse. Jamais, jamais un aveu n'est sorti de ses lèvres, même sous la torture. Pourquoi est-ce qu'on voulait tellement arracher cet aveu ? Parce que l'aveu était la justification en elle-même de l'ensemble de ces procédures abominables. D'une certaine manière, par l'aveu, arraché même sous la torture, le juge était innocenté de toute culpabilité. C'est un cercle monstrueux. Mais dans cette affaire, s'agissant de Calas, il n'avoue pas, et précisément parce qu'il n'a pas avoué, il n'y a pas de charge que l'on puisse retenir contre aucun des autres. Et c'est ainsi que pour finir, eh bien, Calas seul périt sur la roue. Après tout, le frère de Marc-Antoine, s'il était complice, pourquoi seulement le bannissement ? Pourquoi l'acquittement par le Parlement de Toulouse de la maire ? Pourquoi l'acquittement ?
Il y a eu intervention ensuite, justement.
Non, je parle là de la décision qui a été rendue à Toulouse.
Mais ils ont d'abord été tous condamnés, et une fois que Jean Calas a été exécuté, les autres ont été acquittés. Enfin, acquittés.
Non,
pas vraiment, en plus.
Pour être tout à fait précis, les juges ont prononcé le verdict contre Callas, torture et le reste, on vient de détailler. On a sursis de quelques jours, et quand on a prononcé la décision définitive, eh bien, on a épargné la vie de Madame Callas, comme on a épargné, sous la forme du bannissement en perpétuité, celle de son fils qui aurait été son complice, comme on l'a fait aussi, mais en les acquittant, pour la vieille servante et pour le voyageur de passage. Puisqu'il n'avait pas avoué, qu'est-ce qui restait comme charge? Vous voyez ici l'horreur de ces procédures. Vous torturez à mort pour arracher des aveux dont vous vous servirez ensuite contre d'autres en les torturant. Le tout sans avocat présent. Les avocats peuvent publier des mémoires. Certains le font avec beaucoup de talent, mais ça s'adresse à l'opinion publique. Ça n'est pas au moment de l'interrogatoire. Ça n'est pas de procès où lequel il y a du public présent. Tout se passe dans la chambre des Tournelles, qui est fermée. Et tout se passe avec les instruments de torture à côté. Dans un jugement interlocutoire, c'est-à-dire avant la fin du procès, on avait prévu qu'on montrerait simplement les instruments du supplice de la torture à la vieille servante. Non, vous êtes là dans une justice qui est devenue perverse. Et le crime judiciaire contre la personne de Callas, Voltaire, parce qu'il a du génie, et je crois à cet égard une réelle profonde sensibilité, et qu'il est révolté par ce crime judiciaire, il le dénonce. Alors qu'il le branche sur le problème de l'intolérance, on sait à quel point c'est pour lui un combat essentiel. Mais il demeure que dans l'histoire judiciaire, l'affaire Callas, parce qu'elle est affreuse, je dirais ignoble d'une certaine façon pour les juges qui l'ont conduite de cette manière, eh bien, elle va faire prendre conscience que nous vivons à cette époque-là, dans un système judiciaire inhumain, atroce et inefficace.
C'est pour ça que le texte de Beccaria, certes, c'est peut-être pas
juste après.
Mais c'est pour ça que, voilà, vous disiez, mais ce qui est important, c'est la torture davantage que la condamnation à mort.
Beccaria, oui.
Beccaria insiste dans le texte qu'on a entendu sur et il s'oppose à la peine de mort comme principe judiciaire. Et ça va avoir des conséquences réelles sur le système judiciaire de l'époque. Je veux dire, l'intervention de certains intellectuels contemporains qui vont plaider en faveur d'une autre justice. Mais il y aura une réhabilitation, mais pas tant judiciaire que royale, disons-le aussi,
oui,
de Jean Callas.
Il y a, dans l'affaire Callas, comme je vous l'ai évoqué, il y a deux affaires, il y a deux épisodes. Il y a le crime de la justice, c'est à Toulouse. C'est la façon dont on a conduit cette enquête et la façon dont on a supplicié Callas. Et puis vous avez ensuite une autre affaire qui est une affaire politique, que précisément Voltaire va conduire. Pourquoi ? Parce que c'est Voltaire, parce qu'il a un réseau de relations immense, parce qu'à l'époque, en effet, tout se décide ou au sommet, ou à Versailles, ou, et comment, par les relations que l'on a des proches auprès des, soit du chancelier, soit des proches du roi, soit du roi lui-même. Dans le cas de Voltaire, c'est par l'opinion publique et c'est son génie à lui qu'il va saisir des motions à l'encontre des juges de Toulouse, et dire, mais ce qu'on a fait, c'est en effet légal, mais la légalité ici aboutit au crime.
Voilà.
Et par conséquent, on ne peut pas demeurer dans cet état. Alors, il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'est-ce qui va arriver de ceux qui sont encore dans la course, et qu'est-ce qui va arriver à la mémoire de Callas, que Voltaire, à juste titre, entreprend de réhabiliter. Donc, on va obtenir la révision du procès, on va nommer 40 conseillers d'État, enfin c'est une juridiction très importante, ça s'appelle la chambre de l'hôtel, 40 maîtres de requête, qui tous concluront à l'unanimité qu'il faut réviser ce procès parce qu'il est précisément truffé de viols de principes juridiques, même au regard de l'ordonnance royale qui était l'ordonnance criminelle du XVIIe siècle, celle de Louis XIV, qu'on suivait encore. Donc, à cet égard, décision prise, et décision prise par 40 maîtres des requêtes, la fleur l'élite de la justice française de l'époque, qui vont dire non, l'affaire Callas, il faut annuler, casser le jugement, on le casse, et à ce moment-là, on va entreprendre une procédure de révision, et comme dans l'affaire Dreyfus, à laquelle on pense irrésistiblement postérieure,
voilà, on a envie de comparer
à ce moment-là, on va venir dire, Callas, on ne devait pas le condamner et encore moins le supplicier. Et finalement, la famille obtiendra du roi une indemnité assez forte, généreuse pour l'époque, cas unique. Mais ce qui importe pour nous, c'est l'action, l'influence, je dirais, d'une certaine manière, le génie dans l'action sur l'opinion publique et en même temps sur ceux qui sont détenteurs du pouvoir de Voltaire. Là, c'est incomparable. C'est incomparable parce qu'il travaille au sommet de l'État et en même temps, il utilise l'opinion publique. Et avec quel talent ? Alors, il le met au service des causes qui lui sont le plus chères. Bien sûr, la transformation de la justice. Bien sûr, l'avènement d'une justice. Pourquoi ? Il dira, je salue en Beccaria un frère, parce que Beccaria aura terrorisé ce que Voltaire pensait. Et c'est pourquoi les philosophes ont un tel accueil au traité des délits et des peines. Mais au-delà de ça, il y a la source du mal. Et la source du mal, ça n'est pas seulement le système judiciaire qu'en est le canal. La source du mal, c'est l'intolérance, d'où le traité sur l'intolérance. Et Voltaire retrouve là ses adversaires familiers, les fanatiques, les jésuites, etc.
On peut, vous avez cité l'affaire Dreyfus, et effectivement, il est tentant de comparer l'intervention de Zola dans l'affaire Dreyfus à celle de Voltaire dans cette affaire Callas. C'est la différence près que quand même Callas est mort, alors que Dreyfus est vivant, ce qui change quand même le rôle de l'intellectuel à ce moment-là. Mais avec son traité sur la tolérance, l'influence que Voltaire a eue d'un côté sur la toute naissante opinion publique, de par les procédés qu'il met en œuvre, hein, il va écrire une déclaration de Pierre Callas, que Voltaire écrit lui-même en se faisant passer, enfin avec la soi-disant la plume de Pierre Callas. D'un côté, donc, influence sur l'opinion publique, de l'autre, sur le pouvoir en place, il arrive quand même avec la publication du traité sur la tolérance, à obtenir, alors peut-être pas à lui seul, mais une réhabilitation. Enfin, c'est quand même il faut un courage et un pouvoir énorme de la part de l'intellectuel qui était Voltaire en son temps pour obtenir ça.
Et un travail. Et un travail, ce n'est pas seulement le fait du génie littéraire. Le travail de Voltaire, préparatoire à son entrée en scène, la prise de connaissance des éléments du dossier, l'audition. Il est à ce moment-là à Ferney, proche de Genève, où se sont réfugiés les deux frères Callas qui sont encore là. Et Voltaire fait d'abord sa conviction avant de publier, sous des noms d'ailleurs, évidemment, d'emprunt, les premiers mémoires. Mais il ne fera pas que cela. Il va convaincre les meilleurs avocats du temps, trois très grands avocats du temps, de publier des mémoires qui sont conformes à la tradition et aux formes judiciaires en faveur de Callas et des enfants Callas pour la révision de l'un et pour l'acquittement ou l'établissement de l'innocence des autres. Et ils le feront. Pourquoi ? Parce que c'est M. de Voltaire. J'ajoute que Voltaire, d'ailleurs, c'est lui qui réglera aussi les honoraires. C'est une cause qu'il porte, qui devient la sienne et qui sera d'ailleurs reconnue comme telle dans la gloire de Voltaire en son temps. Il n'y a pas que les œuvres littéraires ou les écrits philosophiques, c'est d'abord comme défenseur de l'innocence condamnée. C'est d'abord le défenseur de la famille Callas que l'on salue, que l'on honore. Et quand Voltaire, ses cendres seront transférées au Panthéon, Madame Callas, qui vivait encore, sera là au premier rang. Il est le défenseur de l'innocence outragée. Titre de gloire admirable que nul écrivain n'avait eu avant lui et que beaucoup ensuite songeront à revêtir, généralement sans son génie, mais avec la même conviction. Le rôle ici du redresseur de tort, de celui qui établit l'innocence outragée en la personne de Callas, de celui qui dénonce un système judiciaire injuste au point d'en devenir lui-même criminel, c'est là une partie considérable de la gloire de Voltaire en son temps. Il est l'avocat des Callas.
Ce seront les derniers termes de cette semaine consacrée à Voltaire. Un grand merci à vous, Robert Badinter, d'être venu nous parler de l'affaire Callas et du rôle que Voltaire a eu dans cette affaire aujourd'hui.
La justice des hommes est une grosse fille qu'on aperçoit toujours la balance à la main. Telle une poissonnière qui pèse les anguilles, raide comme son nom devant les citoyens. Si seulement elle avait un peu plus de sagesse, ou la bonté gouailleuse des femmes du vieux port, je ne craindrais pas tant ses tristes maladresses, qui arme le tricheur en dépit de ses torts. La justice des hommes est une lourde fille qu'on aperçoit toujours le glaive dans la main, telle une charcutière qui débite la vie en tronçons réguliers, enrobée d'un certain. Si seulement elle avait une lame précise ou l'habile tranchant des marchands de Paris, je ne craindrais pas tant de voir des mines grises jugées irresponsables ou blanchies par sursis. La justice des hommes est une pauvre fille qui n'y comprend plus rien et qui perd la raison.
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Mosna-Savoie qui vient vous donner envie de lire un livre de philosophie qui vient de paraître. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Événement dans le monde de la philosophie, le tome 4 de la correspondance de Nietzsche paraît aux éditions Gallimard. Et oui, on peut bien parler d'événements avec la parution de ce 4e tome de la correspondance de Nietzsche. D'abord parce que les 2 premiers volumes sont parus en 1986 et que le 3e date déjà de 2008. Mais d'autre part parce que, et surtout, il nous est donné le plaisir, le bonheur même de découvrir une autre facette de Nietzsche. On ne dira pas le vrai Nietzsche, ni le Nietzsche intime, mais en tout cas l'envers du décor de 5 années de métamorphose cruciale. Ce 4e volume va précisément de janvier 1880 à décembre 1884, soit l'une des périodes les plus riches de Nietzsche. C'est la période de création d'Aurore, du Gai Savoir et de l'apparition de la figure du Zarathoustra. C'est aussi en mai 1882 la rencontre avec Lou Andreas Salomé. Mais c'est aussi en arrière-plan un mal-être psychique et physique avec de rares moments d'éclaircie. Que dire alors de plus, sinon que cette correspondance est l'occasion de découvrir les conditions, le contexte de création de certaines œuvres de Nietzsche. Peu importe de voir effectivement un Nietzsche intime, un Nietzsche vrai et vivant, en prise avec la réalité, avec les vicissitudes de la poste et d'une lettre égarée par exemple. Mais peut-être peut-on quand même dire que ces lettres se picorent comme autant de fragments, cette forme de composition qu'il affectionnait tant, sans lien explicite forcément, mais qui le donne à voir sans voile. Sans voile, c'est-à-dire sans l'opacité de sa langue parfois ironique que l'on trouve dans ses ouvrages. Ces lettres, c'est comme si on cheminait avec Nietzsche, à côté de lui. Alors que dire de plus, sinon qu'il faut lire ces pages touchante, et bien peut-être citer quelques lignes tellement lucides d'une lettre de Nietzsche lui-même de janvier 1882. « Le destin de mes idées suivra une très lente et longue voie. Je crois même que ma vie ne commencera qu'après ma mort et que durant ma vie, je resterai mort. Et c'est ce qui est dans l'ordre naturel des choses. » Je rappelle, il s'agit donc le tome 4 de la correspondance de Nietzsche et c'est paru aux éditions Gallimard.
Merci beaucoup Géraldine, les nouveaux chemins touchent à leur fin, ainsi que cette semaine consacrée à Voltaire, l'esprit de Voltaire. Mais vous pouvez évidemment réécouter cette émission et toutes celles de cette semaine en vous rendant sur le site de France Culture, à la page des nouveaux chemins. Vous y trouverez les indications bibliographiques, musicales, concernant ces émissions. Et surtout, vous pourrez les télécharger, les podcaster, c'est-à-dire les installer sur votre ordinateur ou votre lecteur MP3, afin de les écouter où vous voulez et quand vous voulez, en toute liberté. Et je vous donne rendez-vous demain à 10h pour les chemins du vendredi. Mon invité demain sera le philosophe Ali Ben Makhlouf, qui viendra vous parler de son livre « Pourquoi lire les philosophes arabes ?», un ouvrage publié chez Albin Michel. Mais d'ici là, vous pouvez également nous retrouver sur nos pages Facebook et Twitter, où toute l'équipe des Nouveaux Chemins de la Connaissance met en ligne quotidiennement l'émission du jour. Pour l'heure, vous écoutez France Culture, il est 10h54. C'est l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.